Vous écoutez On lit pour vous. Faire entendre la voix des femmes qui vivent dans la rue. Un texte de Marie-Lise Rousseau paru le 24 février 2026 dans Québec Science. Les femmes comptent pour 29 % des sans-abri. Des chercheuses donnent la parole aux femmes ayant vécu l'itinérance dans l'ouvrage collectif « Penser l'itinérance au féminin ». Les femmes sont rarement prises en compte dans les politiques de lutte contre l'itinérance au Québec, et ce, malgré le fait qu'elles vivent des réalités distinctes des hommes, comme la maternité et les violences sexuelles ou familiales. C'est le constat qu'établissait en 2017 la regrettée chercheuse Céline Bello et son équipe au terme d'une étude à grand déploiement menée dans 7 régions de la province pendant 2 ans. Leur rapport de recherche mentionnait alors à quel point persiste une lecture masculine de l'itinérance. Près de 10 ans plus tard, il s'agit du plus récent portrait global de la situation des femmes de la rue au Québec. L'étude « Rendre visible l'itinérance au féminin » a servi de matière première à la rédaction de l'ouvrage « Penser l'itinérance au féminin » co-dirigé par Elisabeth Gressler et Jacinthe Rivard, professeurs à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Autrefois membre de l'équipe de Céline Bello, Jacinthe Rivard est également chercheuse associée à la chaire de recherche sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables. Les données du dernier dénombrement des personnes en situation d'itinérance au Québec, réalisé en 2022, ont permis d'observer une augmentation de la proportion des femmes parmi les sans-abri. En effet, celles-ci comptent désormais pour 29 % de cette population. Ce pourcentage ne prend pas en compte l'itinérance cachée vécue par la majorité des femmes sans domicile. Ainsi, afin d'éviter de se retrouver dans la rue, celles-ci vont dissimuler leur situation, par exemple en dormant chez un ex-conjoint violent ou encore dans leur voiture. Cette recherche participative a été menée en collaboration avec une quinzaine de femmes ayant vécu l'itinérance. Réunies au sein d'un comité de reconnaissance, ces co-chercheuses ont pris part aux différentes étapes de la recherche. Il allait donc de soi pour Jacinthe Rivard et Elisabeth Gressler de donner la parole à quelques-unes de ces femmes dans leur ouvrage publié aux presses de l'Université du Québec en 2025. Ces témoignages mettent ainsi en lumière la complexité et la multitude des parcours de vie qui peuvent mener à la rue. Traumatisme, violence conjugale, relations intimes, passage à l'âge adulte, réalité autochtone et LGBTQ+, font partie des grands thèmes couverts au fil des chapitres. En faisant se côtoyer au sein d'un même livre des écrits académiques et les récits de ces personnes marginalisées, « Penser l'itinérance au féminin » offre à la fois une perspective scientifique et humaine de cet enjeu social. Québec Science. Dans l'ouvrage, vous écrivez qu'il était urgent de documenter le phénomène des femmes en situation d'itinérance. Pourquoi? Jacinthe Rivard. En effet, comme ça n'avait jamais été fait, c'était urgent. Ça l'était encore plus au moment de commencer l'étude en 2015. Depuis, une reconnaissance des différents enjeux touchant les femmes s'est installée, même s'il y a encore du travail à faire. L'urgence était surtout qu'on en parle de façon humaine en intégrant les femmes concernées dans nos démarches, car la meilleure façon de parler d'itinérance cachée, le plus souvent vécue par les femmes, est de le faire en collaboration avec elles. C'était donc incontournable de faire entendre leur voix dans l'ouvrage. On n'avait pas envie de faire un livre comme les autres. Et ces femmes avaient envie de vivre cette expérience d'écriture. Elles ont voulu faire leur propre recherche au sein des travaux. Deux d'entre elles, Lily Perron et Chantal Rail, ont interviewé les autres femmes du comité de reconnaissance afin de rendre compte de leur expérience. Elles ont été accompagnées dans le processus par une de nos étudiantes, Sarah Bell. On aimait l'idée d'amener ces femmes dans un livre scientifique. ce fut un long travail étalé sur plusieurs mois. Il a d'abord fallu leur expliquer les particularités de l'écriture pour un livre. C'est un autre langage, même si on ne voulait pas changer leur façon de s'exprimer. Ce travail en partenariat a été très enrichissant. Québec Science. Sur quelle piste les femmes du comité de reconnaissance vous ont-elles amené au cours de la recherche? Jacinthe Rivard. Leur savoir expérientiel nous a permis de valider des réalités nommées par d'autres femmes interviewées dans le cadre de la recherche dans différentes régions. Le comité a aussi mis de l'avant des questions importantes comme le transport et les menstruations. Ainsi, les produits hygiéniques sont une charge financière significative pour les femmes. Nous ne nous doutions pas à quel point ces enjeux pesaient lourd dans leur quotidien. Québec Science. Comme l'itinérance chez les femmes est souvent invisible, les données telles que leur nombre, par exemple, représentent mal la réalité. En quoi est-ce un obstacle dans vos recherches? Jacinthe Rivard. Pour moi, il va de soi qu'on ne peut gratter un sujet sans passer par les personnes qui en sont les premières concernées. En ce sens, le premier défi, bien que notre réseau soit bien établi maintenant, est de créer un lien de confiance avec ces personnes. Certaines en ont bavé avec la recherche et ont perdu confiance. Par exemple, elles ont participé à des projets, ont mis leurs tripes sur la table et n'ont par la suite jamais vu les résultats. Toutes les recherches ne prévoient pas ce suivi, alors qu'on ne pourrait tout simplement pas faire notre travail sans ces personnes. D'où l'importance de les traiter avec humanité et de ne pas les instrumentaliser. Vous écoutez « Faire entendre la voix des femmes qui vivent dans la rue ». Québec Science. Quels ont été les plus grands défis dans l'intégration de ces personnes qui ne sont pas issues du milieu universitaire, mais dont le point de vue et l'expertise sont indispensables dans vos travaux? Jacinthe Rivard. Ce genre de recherche demande de penser dès le départ à l'après. La fin d'une étude peut être vécue comme une forme d'abandon par les participantes, surtout quand il s'agit de personnes vulnérabilisées et marginalisées. Quand on fait une demande de subvention, il faut donc prévoir le coût. Une fois la recherche terminée, nous avons obtenu une subvention de sensibilisation à un public plus large, ce qui a permis au comité de reconnaissance de poursuivre ses activités. À ce jour, 6 femmes en font toujours partie. C'est comme un feu qui ne s'éteint pas. Nous allons toujours rester amis. Ces expériences de recherche participative ou de recherche-action, comme on les appelle, nous changent aussi en tant que chercheuses. Québec Science. L'écriture de ce livre s'est échelonnée sur 7 ans. Est-ce que la collaboration avec les femmes du comité reconnaissance a allongé le processus? Jacinthe Rivard. On prévoyait le publier plus tôt, en effet, mais on voulait que cet ouvrage illustre ce qu'on avait vécu pendant les 2 années de la recherche. Il était donc important pour nous d'inclure les femmes à chaque étape. Bien sûr, nous avons pris notre posture de chercheuse dans certains chapitres, mais nous leur rendions des comptes, par exemple en leur faisant des résumés. Elles ont toujours été intéressées par le projet. Ensuite, il a fallu défendre notre démarche auprès des éditeurs parce que c'est inhabituel d'écrire un ouvrage académique de cette façon. Ils voulaient, entre autres, retoucher au texte des femmes et, sur ce point, nous avons été intransigeantes. Québec Science. Votre ouvrage propose des solutions concrètes pour repenser les pratiques d'intervention et mieux accompagner les femmes en situation d'itinérance. Quelle est la priorité à cet égard? Jacinthe Rivard. À défaut d'un mode d'emploi, je préfère donner une réponse un peu plus philosophique. On doit s'ouvrir davantage à la différence. Si on arrive à faire ça, non seulement les femmes, mais aussi les personnes trans, autochtones, LGBTQ+, et les jeunes seront incluses dans les solutions concrètes. En travaillant dans le domaine de l'itinérance, je constate que le phénomène « pas dans ma cour » est encore très présent. Il y a beaucoup de méfiance et de peur. Heureusement, ça se travaille, ça se discute et ça peut se déconstruire. Québec Science. Le principal constat de la recherche de 2017 était que les femmes sont oubliées des politiques et plans de lutte contre l'itinérance au Québec. Comment la situation a-t-elle évolué au cours des 10 dernières années? Jacinthe Rivard. De bonnes choses se passent, il faut le dire, et on en parle dans le livre. On observe depuis quelques années une plus grande attention aux réalités des femmes dans la rue. La Ville de Montréal a récemment invité les femmes du comité de reconnaissance à participer à un exercice de sensibilisation. Ce n'est pas demain la veille que la crise de l'itinérance va se régler. Les conditions socio-économiques empirent, ce qui amène beaucoup de repli sur soi. Alors, il faut travailler davantage. On continue. C'était faire entendre la voix des femmes qui vivent dans la rue. Un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 24 février 2026 dans Québec Science.
Les filles, on n'est pas en train de gagner la bataille. Un texte d'Alix Gravel, paru le 16 juillet 2026 dans la presse. Comment réagir comme femme quand on est confronté à un discours masculiniste? Une simple discussion avec trois gars autour d'une bière a secoué l'étudiante en sciences politiques, Alix Gravel, qui n'était pas préparée à faire face à autant de misogynie. Le masculinisme, on sait le nommer. S'en défendre, on ne sait pas. Pardonnez mon cynisme, mais je ne peux désormais plus être rassurée sur cette question. La pensée masculiniste va trop bon train pour que je puisse dormir en paix. Je suis allée boire une bière récemment avec des collègues de bancs d'université que je n'avais pas vus depuis un moment. Ce sont des gens de droite avec qui j'ai beaucoup discuté pendant mon baccalauréat. Malgré nos nombreux désaccords, je suis très à gauche, il nous arrivait souvent d'avoir des débats intéressants, voire productifs. J'ai toujours aimé me confronter à des idées différentes plutôt que de ne fréquenter que des gens qui pensent comme moi. Je crois que le dialogue est important et je valorise l'interaction des idées, aussi loin soit-elle, de ma philosophie. Sauf que cette fois, je me suis retrouvée confrontée à la radicalisation, des propos si misogynes, si racistes, que je n'ai pas su quoi répondre. Je riais nerveusement, puis, en rentrant chez moi, j'y ai pensé beaucoup. Je n'ai pas dormi. J'ai même versé quelques larmes en racontant à mon copain à quel point le fait de ne pas avoir su répondre, d'être resté planté là à affirmer mon désaccord sans plus, m'avait fait sentir stupide. Les femmes ont besoin d'un homme pour leur dire quoi faire. J'ai besoin d'une femme qui sait juste fermer sa gueule. Une femme qui n'a pas d'opinion et qui connaît sa place. Les femmes ont une empathie autodestructrice et c'est pour cette raison que le monde va mal depuis qu'elles ont apporté cette empathie dans les lieux décisionnels. Je n'ai jamais entendu une femme dire quelque chose d'intelligent, même celle avec des doctorats. Les femmes qui couchent avec beaucoup de personnes, c'est juste dégoûtant. Les femmes doivent recommencer à mettre 9 enfants au monde. C'est ce qu'elles sont ici pour faire. J'en passe. J'exclus tous les propos racistes qui ont aussi été tenus ce soir-là. Des propos énoncés devant moi, une femme. Une femme qui a des ambitions, qui réussit bien, mieux qu'eux à l'école. Une femme qui, d'habitude, ne ferme pas sa gueule. Pourquoi ne suis-je tout simplement pas partie, me direz-vous? J'étais sidérée, à la fois intriguée. Je me demandais si partir était vraiment la bonne chose à faire, si éviter la discussion, si les laisser entre eux n'aurait fait qu'empirer la situation, les conforter dans l'idée que les femmes n'ont rien à répondre. C'est pourtant ce que j'ai fait en restant figée là. Je veux être une personne qui écoute pour comprendre, pour essayer de convaincre. Une personne qui reste à table même quand ça brasse, qui croit que le dialogue est important. Tolérer l'intolérance. Le paradoxe de la tolérance de Karl Popper dit qu'une société trop tolérante finit par être détruite par l'intolérance qu'elle refuse de combattre. Ce soir-là, j'en ai fait l'expérience à ma petite échelle, en restant assise à écouter sans répliquer. Je n'ai pas fait preuve d'ouverture. J'ai juste laissé toute la place à des idées qui, elles, n'en auraient jamais laissé aux miennes. Ce n'est plus moi qui les écoute, c'est mon silence qui les nourrit. Le problème n'est pas que je ne voulais pas parler, c'est que je n'ai pas trouvé les mots parce qu'ils n'existent pas. J'ai été exactement ce qu'ils croient qu'une femme est, faible. Même si je me crois forte, même si je réussis bien, même si je suis féministe. On entend quotidiennement parler de la montée du masculinisme, mais rien ne nous prépare au moment où il faut y faire face. Il n'existe aucun manuel sur la façon de réagir quand nous-mêmes, en tant que femmes, nous nous faisons attaquer de la sorte. Et c'est à ce moment que j'en suis arrivée à la conclusion qu'il n'y a actuellement pas de solution. On nous enseigne le phénomène, mais pas à nous défendre. On en parle, mais qui agit concrètement? Si j'avais pu les convaincre avec quelques phrases bien senties que ce qu'ils affirmaient était faux, je l'aurais fait. Mais la triste réalité, c'est qu'ils croient si profondément avoir raison, être du bon côté de l'histoire, que les hommes doivent reprendre le contrôle et cesser de se faire humilier par le féminisme de cinquième vague, qu'il n'y a rien à dire qui les fasse changer d'avis. C'est ce qui explique mon cynisme. Nos points de vue sont si irréconciliables qu'il n'existe, à mon sens, aucun moyen de combler l'écart dans l'immédiat. Ce soir-là, c'était moi, une bière, trois gars. Mais je sais que ce n'est pas juste moi et que ce ne sera pas la dernière fois. Alors, ce texte a plusieurs vocations. Un plaidoyer. S'il vous plaît, élus et élues, faites quelque chose, écoutez les recommandations des chercheurs et chercheuses. Ce n'est pas un phénomène lointain, c'est maintenant que ça se passe. Un punching bag. Je suis fâchée, triste et j'ai besoin d'exprimer ma colère. Une question ouverte. Les filles, je suis restée figée malgré moi. Vous auriez fait quoi à ma place? C'est quoi la bonne chose à faire? C'était « Les filles, on n'est pas en train de gagner la bataille. » Un texte d'Alix Gravel paru le 16 juillet 2026 dans la presse.
Un texte d'Olivier Niquet, paru le 12 juillet 2026 dans La Presse. Alors que des études confirment que l'humain parle de moins en moins, notre collaborateur, un être farouchement silencieux, constate qu'il ne faut finalement pas sous-estimer le pouvoir des conversations banales. Dernièrement, ma conjointe, de fait, a prononcé une phrase qui m'a choquée. J'évoquais une sortie à l'extérieur de notre bungalow vernaculaire avec nos jeunes, entre bros, comme on dit dans les cercles adolescents, et elle nous répondit avec une sorte d'espoir dans la voix. « Oui, partez. Ça me fait du bien quand vous n'êtes pas là. Je peux me parler seule dans la maison. » Après 24 ans de vie commune, je connais assez bien la mécanique du verbomoteur à quatre temps de ma conjointe de fait. Mais cette idée de mener des conversations avec soi-même de façon intentionnelle m'a pris au dépourvu. Bien sûr, il est très commun de se parler à voix haute. Ce serait même quelque chose de sain. C'est juste que, pour une personne de peu de mots comme moi, l'idée d'espérer du vide pour le combler avec sa voix apparaît contre-productive. Mais nous n'avons pas tous le même débit de pensée. Certaines personnes ont le soliloque ininterrompu, d'autres l'ont intermittent. Certains n'ont rien pantoute et d'autres entendent des voix. Mais ça, c'est une autre histoire. Je comprends que lâcher lousse son monologue intérieur dans la nature peut être apaisant pour certains. Personnellement, l'effort de parler à voix haute, ou même à voix basse, est trop grand pour que j'en arrive à dépenser des mots dans le vide. Je suis très économe de la corde vocale. Si j'avais investi autant dans mes REER que dans mes silences, je serais déjà à la retraite à me prélasser sur une île déserte. C'est peut-être pourquoi je suis plutôt à l'aise dans le monde moderne. Un monde où les phrases raccourcissent à vue d'oreille. Selon une étude de l'Université de l'Arizona, publiée dans la revue Perspectives on Psychological Science, les humains, en tout cas en Occident, prononcent de moins en moins de mots. Une personne prononçait environ 16 000 mots par jour en 2005, contre 12 700 mots par jour en 2019. Bon, personnellement, je trouve qu'on parle encore d'un nombre faramineux de mots. Œuvrant dans le domaine du parlage, oui, c'est paradoxal, je sais que pour moi, livrer 12 700 mots reviendrait à parler presque 90 minutes. C'est gargantuesque, si vous voulez mon avis. Et si vous êtes rendu ici dans le texte, j'imagine que vous le voulez. On parle donc d'une fuite d'en moyenne 338 mots par jour par année. À ce rythme de perte de mots, les cas extrêmes, comme le mien, seront bientôt dans le négatif. Je vais devoir emprunter des syllabes à ma blonde pour boucler ma journée. Dans le futur, peut-être que tout le monde communiquera comme moi je le fais, avec des soupirs et des haussements d'épaules. Les experts ont quelques hypothèses pour expliquer cette chute libre du nombre de mots. La principale étant, bien sûr, l'abus des téléphones, de l'Internet, pis tout. D'ailleurs, les jeunes de nos jours ont un déclin quotidien de mots encore plus grand que les autres groupes d'âge. Lorsque je discute avec les bros, ils répondent bien souvent à mes soupirs et haussements d'épaules par des borborygmes. Un dialogue de personnes en situation de ne pas entendre, direz-vous, mais nous réussissons à nous communiquer beaucoup d'amour pareil. Bravo tout de même aux chercheurs qui sont parvenus à compter les mots dans les molles déclarations qui sortent de sous les molles moustaches des jeunes. J'émets une autre hypothèse à ajouter à celle de l'influence des écrans. Peut-être que les jeunes sont tannés de nous avertir que l'humanité s'en va chez le diable et que leur avenir est en jeu pendant que nous continuons nos petites habitudes cyniques. Peut-être qu'ils préfèrent se la fermer. Les gens qui sont affamés de solitude comme moi ne verront pas de problème à cette réalité nouvelle. Les personnes extraverties aussi, par ailleurs, aiment avoir du temps pour elles. J'en connais même une qui espère être seule pour pouvoir se parler à elle-même. Sauf qu'à notre époque, la solitude non sollicitée est endémique. Les Anglos parlent de « loneliness » pour décrire le côté négatif de la solitude. On pourrait parler en français d'isolement ou d'esseulement. C'est un peu moins précis, mais ça ne veut pas dire que les francophones souffrent moins. Surtout, les occasions de faire du « small talk », d'avoir des conversations anodines sur la pluie et le beau temps, sur le troisième trio du Canadien ou sur le prix du beurre, se font de plus en plus rares dans un monde en train de s'automatiser. À l'épicerie, il m'arrive bien parfois de dire ma façon de penser à une caisse libre-service récalcitrante. Mais on ne parle pas ici d'une conversation très enrichissante. Le ressenti de la machine, qui croit dur comme fer que j'ai retiré un article de la zone d'emballage, ne m'inspire que de la colère. Si j'ai déjà méprisé ces petites conversations banales, je pense aujourd'hui que c'est ce qui pourrait sauver l'humanité. Se parler de vive voix aide à mieux saisir les intentions et l'état d'esprit de notre interlocuteur. Selon une autre étude, dans le Journal of Personality and Social Psychology, un concurrent de Perspectives on Psychological Science, je suppose, les gens sous-estiment à quel point ce genre de conversation ennuyante est en fait plutôt agréable. Le small talk est une façon de dire à un ami, un collègue ou un quidam, « Je viens en paix et la preuve en est que j'ai des prédictions météorologiques optimistes à t'offrir. » Bref, continuons de parler pour parler ou, au pire, à écouter ceux qui pratiquent le small talk en solo. C'était Parler pour parler. Un texte d'Olivier Niquet, paru le 12 juillet 2026 dans La Presse.